éloquence dont je vous remercie, et puis la hauteur de vue et la profondeur de champ, donc je ne peux pas me placer sur le même plan, mais évidemment prolonger, je pense, les éléments de réflexion, et j'ai pris beaucoup de notes, donc qui vont également m'alimenter, je pense. Mais pour prendre voilà, le sujet sous un angle peut-être un petit peu plus classique, un petit peu plus fonctionnel sur la question qui est la nôtre ce soir du modèle d'armée. Et le modèle d'armée, je vous l'ai dit, il doit d'abord répondre à
pas de son.
Des alliés et des partenaires. Là-dessus, je ne vais pas en faire des tonnes, on en entend beaucoup. Il y a un document qui est sorti l'été dernier, qui est l'actualisation, une autre actualisation, pas celle de la LPM, justement, mais celle de la Revue Nationale Stratégique, qui est un ouvrage qui a été remis sur le tapis à plusieurs reprises, qui, me semble-t-il, résume malgré tout assez bien cette question de l'environnement et qui fixe une liste de menaces. Il est un petit peu plus diplomatique et c'est normal sur le côté des alliances et des partenariats. Voilà. Quelques éléments là-dessus. Ça ne vous aura pas échappé. La Russie aujourd'hui émerge et s'impose de façon un peu tardive dans notre prise de conscience. Mais aujourd'hui, de façon très nette dans les documents, comme la menace dimensionnante pour les forces armées françaises, pour la nation et pour ses intérêts fondamentaux. Aujourd'hui, du côté de la Russie, on a une structure de force qui s'est renforcée depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. 1,2, 1,3 millions d'hommes. La Russie recrute chaque année 400 000 soldats, alors avec une qualité qui se dégrade d'année en année. Ils sont aujourd'hui obligés d'aller dans des couches de la société qui ne sont pas les meilleures, mais 400 000 hommes, c'est ce que perd en tués, blessés, disparus la Russie en Ukraine. C'est-à-dire que le jour où l'attrition qu'elle publie en Ukraine se tarie pour une raison ou une autre, ça nous laisse une idée de la capacité de la Russie à atteindre en 2 ans. Vous entendez parfois de
2027, 2028,
on va faire quelque chose, mais là, c'est 500 000 hommes. Au-delà de cette masse humaine, restructurée aujourd'hui très majoritairement autour de la puissance de feu. Et je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir sur notre propre modèle d'armée. C'est-à-dire que c'est une armée de la Fédération de Russie qui est moins manœuvrière qu'elle ne s'était pensée avant 2022, infiniment moins évidemment intéressée au mouvement et la masse blindée mécanisée qu'on connaissait à l'époque soviétique. Et loin derrière, en revanche, c'est une armée qui est entièrement centrée sur les feux longue portée. La Russie produit 2000 missiles balistiques et croisières par an. Elle produit 5 millions d'obus d'artillerie lourde de différents calibres. Elle produit 80 000 Shahed par an. Elle produit donc drones équivalents Shahed qu'on a pu retrouver de l'autre côté du golfe arabo-caspique et à peu près autant de bombes planantes. Voilà. Donc c'est une armée qui est centrée sur les feux et qui offre une masse humaine très largement déréliculée, mais qui pose un dilemme voilà, à minima opératif au modèle otanien et dans la géographie de l'espace de l'alliance que l'alliance entend défendre. Il y a évidemment d'autres couches là-dessus, du côté les stratégies indirectes, la suggestion sous toutes ses formes et les capacités à exercer cette menace. Et puis évidemment, dans le champ de la dissuasion, aussi bien en termes de politique déclaratoire qu'en termes d'évolution de posture. Fondamentalement, l'analyse qu'on a conduite encore récemment à l'IFRI dans un document sur l'analyse des rapports de puissance entre l'Europe et la Russie, qui est sorti cet automne, vous avez deux obstacles qui empêchent la Russie d'attaquer l'Europe dans son périmètre otanien. Un premier obstacle qui la fixe, un deuxième obstacle qui la dissuade. L'obstacle qui la fixe, c'est l'Ukraine, qui aujourd'hui fixe 700 000 hommes du côté des forces armées russes, et donc très largement l'essentiel de sa masse de manœuvre. L'obstacle qui la dissuade, ce sont les États-Unis qui, en dépit de toutes les dégradations de leurs garanties de sécurité, continuent à constituer un risque que Vladimir Poutine n'a pas envie de prendre s'il devait s'attaquer à l'espace atlantique. Évidemment, il va sans dire, je pense que vous suivrez avec moi la réflexion, que ces deux obstacles majeurs sont aujourd'hui soumis à une vraie interrogation. Du côté de l'Ukraine, sur sa capacité à résister et à perdurer, en tout cas dans sa forme, et à fixer durablement cette masse russe, et du côté des Américains, du côté de la volonté politique américaine, de maintenir cette dissuasion. C'était encore très clairement remis en question par le président des États-Unis la nuit dernière dans l'une de ces envolées dont il a le secret. Alors la Russie n'est pas évidemment la seule menace. Si vous lisez le document, la revue nationale stratégique, vous avez l'Iran qui est évoqué, et effectivement un certain nombre de choses d'analyse liées à la menace iranienne se sont matérialisées ces derniers temps. On peut discuter ou non de la volonté iranienne d'aller de façon délibérée se porter contre les intérêts français, européens, même si la République islamique était en tout cas amenée ces derniers temps, du côté de la Corée du Nord également, d'un certain nombre de puissances régionales qui, pour des raisons diplomatiques, ne sont pas toujours citées, mais qui sont bien là et qui nuisent à nos intérêts, et puis du côté du terrorisme, notamment du terrorisme islamique qui perdure, qui se reconfigure, qui de façon opportuniste est là pour chercher à porter atteinte. Mais le choix de la Russie ou la mise en avant de la Russie est que de tout ce paysage de menaces, elle est la seule qui aujourd'hui fondamentalement a la capacité à peser sur les intérêts existentiels, sur les intérêts vitaux de la nation française, même si de façon directe d'autres le peuvent, y compris les terroristes. On l'a vécu, je pense, durant les années Daesh, s'il faut les appeler ainsi. Du côté des alliés et des partenaires, je ne serai pas trop long, mais je n'ai pas besoin de faire un dessin sur les interrogations qui pèsent sur la relation transatlantique, et pas uniquement depuis la réélection de Donald Trump et son arrivée en fanfare en 2025, depuis son premier mandat, évidemment, et puis au-delà de ça, sur l'analyse qui peut être faite d'une forme de consensus des partisans. Il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis en ce moment, sur l'intérêt, en tout cas, d'un rééquilibrage de leurs ressources stratégiques et militaires, qui, quel que soit l'optique de ce pivot, conclut presque systématiquement à ce que l'Europe apparaisse comme un moindre niveau d'intérêt pour les États-Unis. Il y a tout un tas d'argumentaires, je ne vais pas rentrer dans le détail. Du côté des Européens, c'est par le général, malheureusement. En même temps, on voit une forme de convergence, ça c'est très important, et depuis 2022, je pense qu'il y a un consensus qui mérite d'être souligné sur cette menace qui est commune pour nous, sur le besoin de faire davantage et de faire davantage ensemble. Et en même temps, au fur et à mesure que les énergies se libèrent, on voit aussi pensée, sur la modalité d'y parvenir. Et je constate à mon grand regret que le nombre de projets en coopération, par exemple, dans lesquels la France participe, est aujourd'hui en recul. Enfin, des partenaires régionaux, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, avec les Émirats Arabes Unis et Djibouti, les deux pays extra-européens avec lesquels la France a une clause de distance, et puis des partenaires stratégiques sur lesquels on peut dire les intérêts sont alignés, mais les engagements moins clairs, et ça va de l'Inde au Brésil en passant par l'Australie, etc. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'environnement. Face à cet environnement, vous avez la question des missions auxquelles répond le format de l'année. Ces missions, elles ont une forme de permanence dans leur nature. Les différents livres blancs, alors le livre blanc de 1972 avait trois missions fondamentales qui étaient la dissuasion, la protection et l'action, qu'on a appelé intervention ensuite. En 1994, on a rajouté la fonction de prévention. En 2008, dans le livre blanc 2008, la fonction de connaissance, anticipation. Et puis, plus récemment, en 2022, certains ont cru bon d'ajouter la fonction influence, qui était en fait assez largement à la main d'autres acteurs que les armées elles-mêmes, et qui continuent à faire débat sur son opérationnalisation. À chacune de ces fonctions stratégiques, vous avez évidemment des capacités, des aptitudes d'abord, et ensuite des capacités qui sont liées, et qui évoluent en fonction de cet environnement. Ça a été dit et répété, la dissuasion, c'est le socle et c'est la fonction stratégique sur laquelle la Ve République a construit son modèle. Et cette dissuasion, elle est renouvelée dans ses deux composantes à chaque reprise, elle est dans la LPM actuelle et dans son actualisation, avec une adaptation au-delà du simple renouvellement des porteurs, des vecteurs et des têtes. Dans le discours de l'Union que le président de la République a délivré le mois dernier, avec une évolution significative depuis la fin de la guerre froide, puisque l'on revient sur une augmentation des têtes, après des années où la France avait contribué à son niveau à la réduction des armements stratégiques en passant sous la barre des 300 têtes. Vous pouvez dire parfois 290, mais le chiffre officiel, c'est moins de 300 têtes. Donc nous allons revenir sur ce choix-là, sans communiquer concrètement sur l'ampleur de cette augmentation. Cette augmentation continue de répondre aux besoins de la stricte suffisance, c'est-à-dire que si on augmente le nombre de têtes, ce n'est pas pour faire la course avec qui que ce soit, c'est parce qu'on estime que c'est ce qui est nécessaire, justement nécessaire pour assurer la pénétration des défenses adverses, etc. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter. L'autre adaptation, ça a été là aussi largement commenté, c'est celui de la dissuasion avancée, c'est-à-dire qui existait depuis le général de Gaulle, c'est-à-dire l'idée que la dissuasion ne se limitait pas, l'ombre portée de la dissuasion ne se limitait pas au strict territoire national et métropolitain. Parce qu'il y avait des imbrications d'intérêts à l'époque où l'Union soviétique dans ses armées était à deux étapes du Tour de France. On savait bien que la protection des approches pouvait participer de la dissuasion. Ça, c'est à la stricte décision du président de la République, du président de la République. Aujourd'hui, on a une imbrication parce que l'Union européenne, parce que les euros qu'on a dans la poche, parce qu'un certain nombre de chaînes de valeur, un certain nombre de fonctions fondamentales et vitales de la nation aujourd'hui se délivrent à l'échelle européenne. Ça veut dire que l'un centimètre carré du territoire de l'Union européenne est couvert par la dissuasion, mais il existe une dimension européenne de la dissuasion nucléaire française pour les intérêts vitaux de la France et non pas de l'Europe, puisque ça reste une dissuasion française. Et donc ça va s'exprimer par une dissuasion avancée, qui est à la fois une fonction d'accroître la survivabilité des forces, notamment des forces aériennes qui pourraient se disperser vers l'avant, mais qui pourraient aussi avoir une fonction de signalement stratégique de ce point de vue-là. Donc voilà pour ce qui est de la dissuasion, et c'est le socle, et c'est celui qui est sanctuarisé, évidemment, comme ça l'a été dit, sur le plan budgétaire et sur le plan des équipements. Vous avez la fonction protection, je serai moins, moins long dessus, mais qui s'est vu renforcer et repenser depuis 2015, depuis les attentats, la vague d'attentats, et qui aujourd'hui doit se penser à l'aune d'une sanctuarisation par la dissuasion qui est moins couvrante qu'on ne le croyait. Au cours des 3 dernières années, vous avez deux puissances nucléaires qui ont été attaquées sur leur territoire national, la Russie et l'Ukraine, frappées par des salves de missiles balistiques, dans le cas de la Russie, par une invasion terrestre, sans pour autant être couvert par la dissuasion. On se rend compte à l'aune de ces conflits, je ne parle pas de l'Iran et de l'Inde et du Pakistan, qui ont également été frappés mutuellement sur leur territoire, sans pour autant. Je ne dis pas que la dissuasion nucléaire n'a pas joué dans ces conflits-là, je dis que le seuil de déclenchement des armes nucléaires et le niveau de sanctuarisation des territoires était plus élevé qu'on ne croyait. Et donc, ça, c'est des choses qui étaient des impensées pendant longtemps. Et donc, repenser la protection, y compris dans le champ balistique et aérien du territoire national, elle va aujourd'hui de pair avec la manière dont on repense, la situation. La fonction de connaissance et anticipation, elle évolue régulièrement par la technologie, par le milieu spatial, aérospatial notamment, par le champ électromagnétique, par le champ cyber, qui évidemment lui aussi exige des investissements et des capacités. La prévention, on en a un petit peu parlé sur le départ d'Afrique, et a toujours été le parent pauvre, je pense, de ses fonctions stratégiques. Et il est aujourd'hui plus que jamais avec l'outil de coopération qui s'est réarticulé, qui a gagné en agilité, mais qui, de fait, dans le poids qu'il a sur les choix capacitaires, se réduit. Et puis enfin, je mets de côté l'influence, mais la fonction intervention, qui aujourd'hui se calque sur la question de la haute intensité, et je vais y revenir un peu plus largement. Donc à partir de ces missions, de ce périmètre de mission qui évolue tout en pérennisant ce socle, on a la question de l'équation budgétaire et de ce fameux format des armées qui nous occupe. Le format lui-même, la loi de programmation militaire actuelle, comme celles qui nous ont précédé, et qui sont issues des livres blancs et des revues stratégiques, est fondamentalement le format dont les armées de 1990 et surtout de 1997 sont issues. Il y a toujours un moment un petit peu d'hésitation dans lequel on lit les revues stratégiques et on dit le monde a tellement changé, l'environnement s'est tellement dégradé, les menaces sont tellement accrues, mais le format issu de la guerre froide est le bon et fondamentalement on va essayer de le sincériser, de le renforcer, de le muscler, mais le format lui-même n'a pas évolué, c'est un modèle complet, on veut aussi équilibré que possible et qui cherche à se structurer sur l'ensemble de ce spectre de missions. Les 30 milliards qui se rajoutent actuellement là, sur la loi, sur l'actualisation, donc aux 400 milliards qui avaient été votés précédemment pour 7 ans, viennent effectivement s'insérer un modèle qui avait été pérennisé. Le général Burkhard, quand il avait défendu la loi de programmation militaire 24-30, avait eu cette formule qui, me semble-t-il, était très juste, qui était de dire: nous avons cherché à privilégier la cohérence sur la masse. La première fois que j'ai entendu ça, je n'étais pas tout à fait au clair sur ce qu'il entendait, mais en regardant là où allait effectivement l'effort, les choses étaient très claires. En fait, les efforts et les marches supplémentaires allaient évidemment au renouvellement du format et des équipements, et notamment dans le champ de la dissuasion, et puis à l'accroissement du maintien en condition opérationnelle, des pièces détectées, des munitions, c'est notamment l'objet de l'effort particulier de cette actualisation, des équipements de mission qui avaient été mutualisés, des exercices, du carburant, de tout ce qui fait finalement le muscle d'armée d'un modèle d'armée qui avait été préservé dans sa structure, c'est-à-dire dans son squelette, mais qui avait été creusé de l'intérieur. Et donc, on avait souvent entendu pendant la période 2008-2014. 2015, entendre le mot que les armées étaient à l'os, puisque vous aviez préservé la structure, et effectivement, il restait un squelette, mais ce squelette manquait de chair et de muscles. Aujourd'hui, c'est la loi de programmation militaire de ces dernières années, dite de réparation, sont venues redonner du muscle, mais évidemment, sans changer le format, c'est-à-dire sans croître le squelette, simplement. Et évidemment, quand vous remettez des MCO, vous remettez des munitions, vous remettez des journées de préparation opérationnelle, vous remettez de l'équipement de mission, et bien tout ça, ça vous donne des armées plus robustes et plus capables, mais ça ne vous fait pas un char de plus, pas une frégate en plus, pas un avion en plus, et ça, c'est des choses qui sont difficiles parfois à expliquer au grand public. Hein, quand on dit, bah, là, on a doublé le budget des armées, et vous n'avez pas un avion en plus. Et vous n'avez pas un char en plus, en fait, vous en aurez un petit peu moins qu'il y a 10 ans, parce que vous continuez à financer une partie de votre modernisation par la réduction des formats. Là-dessus, l'actualisation la plus récente, celle qui est débattue aujourd'hui, malgré tout, rajoute quelques nouveaux objets. De théâtre, des drones spécialisés, du cloud souverain, des systèmes solaires et de l'artillerie solaire embarquée type Proteus, le retour de la guerre électronique, en tout cas de l'attaque électromagnétique, etc., de l'intelligence artificielle, j'en passe. Donc à chaque fois que vous essayez de rajouter des choses, quand on sait très bien qu'avec la simple sincérisation, on est déjà au maximum budget qui est alloué. En fait, si vous voulez augmenter le format, c'est pas 136 milliards, c'est sans doute bien davantage. Quatrième temps, ce format répond-il du coup aux besoins décrits par l'environnement et par ses missions? La revue nationale stratégique fixe, c'est le prérogatif du SGDSN, du politique lui-même qui endosse ses analyses, comme scénario central, le risque, là je cite la revue nationale, d'une guerre majeure de haute intensité en Europe, qui impliquerait la France et ses alliés, en particulier européens, à l'horizon 2030. Ça, c'est le scénario central autour duquel doit se structurer justement ce format des armées, c'est le paragraphe 7. De la revue nationale stratégique avec la question de la menace russe qui est derrière. Une guerre de haute intensité, guerre majeure de haute intensité, en Europe, aujourd'hui, ce qui définit le besoin capacitaire, ce sont, puisque elle devrait être menée dans le cadre de la guerre atlantique, qui est celle qui a la responsabilité de la défense collective du continent européen et l'espace euro-atlantique, donc dans le cadre de plans de défense de l'OTAN. Plans de défense de l'OTAN qui ont été entièrement revus depuis 2019 et en particulier depuis 2022, avec des cibles capacitaires associées qui ont été validées souverainement par la France dans le cadre de l'alliance. C'est ce qu'on appelle dans l'OTAN le Force Structure Requirement, qui est la liste de tout ce qu'il y a besoin pour mettre en œuvre les plans de défense. Du côté français, le Force Structure Requirement est classifié, mais on a quelques idées. Du côté français, la loi de programmation militaire fixe un contrat opérationnel dit d'hypothèse d'engagement majeur qui correspond bien à ce scénario central de la RMS. Je ne vais pas détailler l'hypothèse d'engagement majeur, mais qui est ce contrat sur lequel est censé être en partie construit le format d'armée avec l'addition des contrats possibles, puisque vous avez un contrat opérationnel d'utilisation également, un contrat de protection, etc. Et si je me concentre sur le contrat opérationnel ATM, donc hypothèse d'engagement majeur, vous avez dans le champ terrestre un objectif à un corps d'armée, donc au moins une division française, un corps d'armée de deux divisions, le format OTAN est plutôt à trois divisions, donc on voit bien dans le domaine terrestre qu'on a un temps encore important, je regarde, un collègue interministère qui connaît parfaitement le sujet sur le chantier capacitaire qui est devant nous pour parvenir à crédibiliser ce corps d'armée, notamment dans des éléments organiques de corps d'armée, des grandes surfaces d'accompagnement, peu dans la profondeur, génie de combat, contre-mobilité, guerre électronique, renseignement, etc. Donc, la LPM actuelle, dans son horizon 2030 et même dans son horizon 2035, voilà, nous donne quelques pistes, mais en fait insuffisantes si je regarde à l'horizon 2035 ce que la LPM me donne sur notamment ces éléments organiques de coordonnées. J'ai une partie, mais je n'ai pas la totalité de ce contrat opérationnel. Dans le domaine aérien, c'est la même chose. On a un objectif fixé par la HEM à 40 avions de combat projetés à faire face à un adversaire de premier rang dans un espace aérien contesté. Ça a été évoqué à un moment par le général de Lumière. Aujourd'hui, avec un parc à 190 cellules, si vous ne mutualisez pas, parce qu'on ne peut pas se permettre de le faire, le contrat protection avec la permanence opérationnelle et le contrat dissuasion avec qui doit être préservé pour le raid nucléaire avec donc cette hypothèse HEM, plus les tensions sur les équipages, sur les équipements de mission qui ont été mutualisés très largement pour l'armée de l'air, c'est-à-dire que pour un escadron de rafale, vous avez en général une proportion limitée d'équipements de mission qui peuvent permettre de rendre ces rafales opérationnelles. Là encore, l'actualisation va évidemment dans le bon sens, mais tend vers la réalisation du contrat opérationnel sans totalement le rendre du côté de la marine. On a évidemment un groupe aéronaval comme objectif principal, mais vous avez également d'autres missions, y compris sur les territoires d'outre-mer, qui posent question quand on voit par exemple la prolongation des frégates de surveillance bien au-delà de la durée. Le format HEM, donc, qui est seulement en partie sincérisé, je dirais, par cette LPM, ne fait lui-même que tendre vers les cibles capacitaires qui nous sont fixées et que nous nous fixons dans le cadre de l'OTAN. Et enfin, ces plans de l'OTAN eux-mêmes, aujourd'hui, comptent sur la participation des États-Unis, contributeur principal, à la hauteur de leurs engagements. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez être prêt dans un environnement dans lequel les États-Unis auraient significativement réduit leur contribution, voire ne contribueraient pas à la défense de l'Europe, non seulement il faut revoir les plans, mais c'est sans doute des cibles capacitaires bien supérieures. J'accélère le temps suivant du côté du premier point qui était celui du tempo et de la temporalité. Et là, évidemment, en tant qu'analyste, je suis surpris, je suis frappé par une question. On a aujourd'hui un format d'armée qui, voté dans le cadre de la LPM, se projette sur un horizon capacitaire qui est l'horizon 2035. En fait, pas l'horizon 2030. Cet horizon 2035, c'est-à-dire 5 ans au-delà de l'horizon financier cadré lui-même par la LPM, est aussi 5 ans après l'horizon stratégique qui a été fixé par la RNS d'un choc majeur en Europe d'ici 2030. Donc là, il y a quand même une question dans la LPM ou l'actualisation actuelle, l'actualisation en débat, nous dit que sur le missile balistique de théâtre, l'initiative a été lancée dès juin 2023, il y a 3 ans, à l'occasion du Salon du Bourget, avec l'initiative ELSA, European Long Range Strike Approach, nous dit qu'il y aura un développement de ce missile balistique à horizon 2030 et une capacité à l'horizon 2035. Évidemment, le développement d'un missile balistique de théâtre, si j'ai un choc majeur en 2030, il ne sera pas, il sera utile sans doute, mais il ne sera pas actionnable. Je peux en faire d'autres exemples. Le départ de bataille MGCS, dont des études sont prévues en 2030, pour un développement à horizon 2035 dans le cadre de la LPM, quand on connaît l'espérance de vie aujourd'hui de nos chars Leclerc, même rénovés au format XLR, évidemment, on pourrait parler du lance-roquette unitaire, on pourrait parler des fréquences de surveillance mobile, des drones de surface pour la marine. Donc c'est la vitesse de développement des drones de surface par l'Ukraine, par d'autres acteurs, et de l'utilité qu'elles auraient pour protéger par exemple nos outre-mer dans des logiques d'interdiction d'alarme. Voilà, l'adoption de drones de surface d'une flottille à horizon 2035, etc. etc. Donc, on a une LPM qui sans doute répond aux besoins, mais qui risque d'y répondre au-delà de l'horizon stratégique qui a été fixé par notre propre revue nationale stratégique. Enfin, et je conclurai là-dessus, une réflexion sur l'effort de dépense, et je pense rejoindre les éléments de réflexion du général Bélone Minière dessus. On a effectivement un budget de défense qui a doublé en l'espace de 10 ans, de 32 milliards à 64 milliards pour la mission de défense. Et c'est un effort considérable, il ne s'agit pas du tout de négliger en disant que ce n'est pas du tout assez, etc. Il faut le saluer, il faut le remarquer dans le contexte de nos finances publiques qui sont dans un état que l'on connaît, de la dette publique qui est dans l'état que l'on connaît, l'effort est salutaire et évidemment louable. Pour autant, le doublement de la valeur de la mission défense ne correspond pas à un doublement de l'effort de défense, puisque le PIB, heureusement, a cru aussi au cours de cette période. Donc, en fait, on va passer de 1,8% du PIB, ce qui était le cas en 2017, à 2,5% du PIB à horizon 2030, ce qui, encore une fois, est un effort à noter, mais c'est bien loin, évidemment, d'abord de l'effort de défense consenti par un certain nombre de partenaires les plus engagés, certes, d'Europe du Nord et de l'Est, et qui, évidemment, ne correspond ni à nos efforts de défense de l'époque de la guerre froide, et je ne parle pas d'une hypothétique économie de guerre dans laquelle nous ne sommes pas et dans laquelle nous n'avons pas prévu de rentrer, en dépit de la rhétorique qui peut dire le contraire. Et évidemment, la question de la répartition des armes, on est en parallèle avec une Allemagne qui, elle aussi, rattrape des années où elle était à 1%, mais qui vise l'objectif à 3,5% et d'arriver à 160 milliards d'euros de budget de dépenses à l'horizon 2030. Et donc là, ce n'est pas doublé sur 10 ans, là, c'est triplé sur 5 ans, ce que font les Allemands. Mais évidemment, ça pose des questions. Des rapports entre les alliés, entre les partenaires, de ce qui est attendu des uns et des autres, et de la capacité d'entraînement et de leadership de la France sur ces sujets-là, compte tenu en plus du fait que nous consacrons une partie de cette ressource à des exigences de souveraineté qui ne sont pas celles de nos partenaires européens, faire français, c'est aussi payer le prix de la souveraineté, en tout cas la souveraineté a un coût, et c'est bien normal. Ça pose des questions dans les champs de la coopération. Et puis le choix, en tout cas le pari du nucléaire, le pari de la projection et des intérêts d'une caractère global, de la dépense de nos intérêts, tout ça, c'est que l'argent dépensé, il est dépensé sur un spectre plus large en France, en Pologne, par exemple, et c'est très frappant, évidemment, quand vous voyez les priorités, et même dans le cas de l'Allemagne. Donc le risque, aujourd'hui, il n'est pas tant celui d'une rupture, à mon sens, spectaculaire, ou d'un décrochage de la France, au contraire, on voit bien que la France cherche à s'adapter, mais je dirais plus d'un décalage, d'un retard qui pourrait s'accumuler progressivement, avec une France excellente dans les lits où elle excelle déjà, c'est évidemment celui de la dissuasion nucléaire, avec la dissuasion avancée qui se dessine, dans celui des forces spéciales, de la capacité de projection de crise, mais qui, à mon sens, continuera à peiner dans le domaine de cette hypothèse d'engagement majeur, de haute intensité, l'espace, dans l'espace européen, où on serait progressivement tenté sur certains segments capacitaires et également sur le plan industriel, je pense, par rapport à l'émergence d'un complexe centre-européen aujourd'hui porté par l'Allemagne. Donc voilà, j'espère avoir pas été trop long ni trop sombre dans mon analyse, mais en tout cas, c'est quelques réflexions que m'inspire votre question.
Un grand merci.